Décryptage, Aurélien Devernois.
Bonsoir à toutes et à tous. Il y a trois semaines, débutait en Biélorussie un mouvement de contestation après la victoire écrasante d'Alexandre Loukachenko à l'élection présidentielle. Un trucage, un de plus selon de nombreux Biélorusses qui depuis protestent sans interruption. Hier, ils étaient encore des dizaines de milliers à manifester à Minsk, la capitale, mais aussi dans les autres grandes villes du pays. Mais le pouvoir ne cède rien et multiplie intimidation, arrestation et violence, alors que la Russie d'un côté et l'Union européenne de l'autre restent dans des positions attentistes. D'où cette question, l'été biélorusse touche-t-il déjà à sa fin? Les contestataires pourront-ils maintenir leur mouvement dans la durée? Ou sont-ils dans une impasse? Bienvenue dans Décryptage. Et pour tenter d'y voir plus clair, Anna Colin-Lebedev et Bruno Drevski sont avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Bruno Drevski, on va commencer avec vous. Vous êtes historien et politologue, maître de conférences à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, l'INALCO. Remettons tout d'abord les choses dans leur contexte. Pourquoi cette contestation a émergé maintenant alors qu'Alexandre Loukachenko est au pouvoir depuis 26 ans maintenant?
Alors voilà, disons pour résumer de façon évidemment très brève, on a une nouvelle génération qui arrive sur le devant de la scène, qui n'a pas connu la période de crise très grave qui a succédé à la fin de l'Union soviétique et pour qui, je dirais, la stabilisation des années 90, c'est même pas de l'histoire ancienne, c'est leur petite enfance. Enfin, pour eux, ça ne veut rien dire, en fait. Et donc, c'est évidemment cette jeune génération, surtout concentrée à Minsk. Hein, ce sont surtout les jeunes de Minsk, donc la capitale, bien sûr, que l'on voit au devant des événements et qui n'ont connu, en fait, qu'un seul régime politique, qu'un seul président de la République. Et on peut évidemment comprendre que cette jeune génération a envie de voir un peu de neuf. Hein. Donc ça, c'est un élément alors auquel s'ajoutent d'autres éléments, comme le fait que la manifestation a été réprimée violemment et que ça élargit, si je peux dire, le mécontentement. Mais le point de départ, c'est ça. C'est, je pense, l'arrivée d'une nouvelle génération, surtout dans la capitale. Voilà.
Anna Colin-Lebedev, vous êtes, vous, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre et spécialiste justement des sociétés post-soviétiques. Alors est-ce que c'est, comme le disait Bruno Drevski, parce que la société biélorusse a changé que cette contestation a pu naître? Est-ce que les Biélorusses aspirent à autre chose que ce style très soviétique d'Alexandre Loukachenko?
Alors l'élément générationnel est important, bien évidemment, mais il ne saurait expliquer pourquoi des Biélorusses qui ne sont ni jeunes ni urbains ont rejoint assez massivement la protestation, puisqu'aujourd'hui on voit des personnes de tout âge, de tout milieu social et à travers tout le pays qui s'opposent au régime Loukachenko. Il faut ajouter d'autres éléments, je pense, qui sont alliés avec le contrat social implicite que Loukachenko avait avec sa population pendant de nombreuses années, hein, les décennies de son règne, et en fait qui ne sont plus remplis. Hein, le contrat social était une stabilité, une présence très forte de l'État, le plein emploi, des revenus corrects et croissants, une paix sociale en échange d'un pouvoir autoritaire. Or, on constate que depuis plusieurs années, l'économie biélorusse décline et les Biélorusses ne voient plus l'intérêt en fait à maintenir ce gouvernement qui non seulement est autoritaire, mais ne remplit pas les promesses qu'il remplissait et qui lui garantissait une certaine loyauté.
Alors, il y a eu donc depuis trois semaines une effervescence jamais vue pour ces diverses raisons en Biélorussie. Et le pouvoir a tout d'abord misé sur la répression à tout va. Hein. On a vu des images extrêmement violentes hein, dès le lendemain de l'élection présidentielle, quand il y a eu des manifestations. Il y a eu des centaines d'arrestations, des actes de torture ont été rapportés. Il y a encore près de 70 personnes hein, qui sont portées disparues d'ailleurs. Mais il semble que depuis, la stratégie du pouvoir a évolué, Bruno.
Oui, il est clair que les forces de répression ont changé totalement et même le ministre s'est excusé pour la répression contre les manifestants pacifiques, comme il a dit. Alors, il y a différentes rumeurs qui circulent à Minsk. Il y en a même qui disent que c'est tout simplement qu'il y a eu des provocations dans le camp gouvernemental pour, en quelque sorte, affaiblir la position du président et le repousser dans les bras de Poutine. Bon, c'est évidemment un scénario un peu complotiste. On peut évidemment le contester, il n'en reste pas moins que cette rumeur révèle quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'on sent bien que à l'intérieur même du groupe gouvernemental, il y a aussi différentes tendances qui s'affrontent et c'est ce qui explique évidemment ce type de rumeur.
Alors finalement, Alexandre Loukachenko manie un petit peu la carotte et le bâton, puisque la répression continue quand même. On a vu encore hier à Minsk qu'il y avait des très forts déploiements policiers, des forces de sécurité, des CRS biélorusses, etc. Et d'un autre côté, aujourd'hui, il dit oui, pourquoi pas, un référendum constitutionnel pour peut-être réorganiser un petit peu le système politique dans le pays. Anna-Colin Lebedev, c'est jouer sur ces deux tableaux, est-ce que ça peut affaiblir le mouvement de contestation ?
Alors effectivement, on voit chez Loukachenko depuis le début des protestations un balancement entre différentes stratégies, entre différents discours, entre différentes désignations de l'ennemi. Par exemple, les manifestants étaient désignés par lui comme dans un premier temps comme un rassemblement de marginaux, d'alcooliques et de drogués. Puis il a commencé à parler d'ingérence étrangère, de personnes venues de Pologne et de Lituanie pour organiser les manifestations. Pareil dans la répression, effectivement, d'une répression d'intimidation, on n'est pas aujourd'hui à une stratégie visant à user le mouvement, maintenir une petite répression de base contre certains manifestants, mais jouer sur la fatigue. Loukachenko ne semble pas tenir une ligne claire aujourd'hui, mis à part qu'il ne souhaite pas négocier, qu'il ne voit pas de personne avec qui négocier. Ce discours sur la réforme constitutionnelle, ce n'est pas la première fois qu'il le tient, hein, c'est un peu une rengaine qui revient régulièrement et il ne souhaite d'ailleurs pas associer l'opposition ni les protestataires à la formulation de cette hypothétique nouvelle constitution. Donc à ne pas trop prendre au sérieux.
Alors les contestataires de leur côté, eh bien, ne savent pas trop sur quel pied danser. Ils regardent un petit peu les atermoiements du pouvoir, mais ils poursuivent donc leur mouvement toujours sans réel leader. Ça c'est important, même s'il y a des figures
oui, enfin,
quand
y a
même.
Des figures, oui.
Voilà, Svetlana Tikhanovskaya qui est réfugiée en Lituanie, mais malgré tout, sur le territoire biélorusse, il n'y a pas de leader affirmé. Il y a aussi la prix Nobel Alexeïevitch. Mais en tout cas, le point commun qu'il y a depuis le début de cette mobilisation, c'est cette espèce de stratégie de non-violence qui s'est encore illustrée ce week-end avec des différentes manières pour éviter la confrontation violente avec les forces de sécurité. C'est ce qu'on avait pu voir depuis un an à Hong Kong. Alors, justement, Hong Kong, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut trouver des similitudes ? Est-ce que en Biélorussie, on a pu se dire, ben voilà, il y a peut-être un moyen de protester sans se retrouver tout de suite dans une forme de violence qui risque de nous desservir, Bruno Dorsky.
Oui, enfin, Hong Kong, c'est quand même une situation tout à fait différente parce qu'en Hong Kong, on a une économie ultra-capitaliste alors qu'en Biélorussie, on a une économie quand même très largement étatiste. Donc évidemment, la situation est tout à fait différente. L'enjeu, en fait, de ce qui s'est passé en Biélorussie depuis 3 semaines, et c'est là où on voit qu'il y a, véritablement, c'est le véritable lieu de rencontre, si je peux dire, des contradictions, c'est la question des grandes entreprises. C'est-à-dire que la question a été est-ce que les ouvriers vont se mettre en grève ou pas ? Et c'est là où, je peux dire, le pouvoir est allé lui-même au charbon, c'est-à-dire non seulement Loukachenko, mais les ministres, les premiers ministres sont tous allés dans les usines, parler aux ouvriers, et apparemment, ils ont réussi quand même à, disons, donner, au moins en apparence, un renouveau au discours. Pour le moment, vous pensez faire grève parce que vous êtes des travailleurs, mais s'il y a la privatisation, vous ne travaillerez pas parce que vous serez chômeur. Donc, défendez le président en quelque sorte, parce que ce soit le modèle russe ou le modèle occidental, c'est la rue qui vous attend. Hein, c'est grosso modo, je résume bien
donc
sûr, c'est le discours qu'il tient.
Diviser pour mieux régner,
voilà.
Et éviter que, on va dire, un secteur central de l'économie biélorusse, que sont l'industrie et les entreprises d'État, bascule du côté des...
Oui, surtout qu'il faut savoir qu'en Biélorussie, on a des entreprises de pointe. Hein. Par exemple, l'entreprise de Soligor, c'est 10% de la vente mondiale des engrais chimiques. Hein. On a des usines de pointe qui étaient la fierté du pays et qui, d'une certaine façon, expliquent aussi pourquoi les ouvriers se sentent poussés des ailes, en quelque sorte, puisqu'ils représentent des entreprises concurrentielles sur le marché international. Je parle évidemment des fleurons fleurons de l'industrie. Je ne parle pas évidemment de tout. Et c'est là l'enjeu. Et on a vu évidemment les manifestants se précipiter vers les usines pour essayer de pousser les ouvriers à la grève, et les ministres et les premiers ministres faisant la même chose. Et donc là, on sent bien que cette situation, que Loukachenko essaie de rejouer la carte sociale, mais il est dans une situation difficile parce que Poutine, il a besoin de l'appui de Poutine. Or, les oligarques russes, eux, cherchent la privatisation des entreprises biélorussiennes.
Alors, on va arriver très rapidement à la question russe, qui est forcément le voisin ultra influent de la Biélorussie. Mais tout d'abord, Anna-Colin Lebedev, est-ce que vous partagez cette analyse de stratégie de la division, et surtout, est-ce que cette stratégie, elle fonctionne?
Alors, stratégie de la division, oui, mais stratégie aussi visant en fait à faire comprendre, aux couches de population qui ne sont pas contentes de la situation économique et sociale actuelle de la Biélorussie, que ce serait encore pire sans Loukachenko.
C'est ça, oui.
Donc là, à mon sens, Loukachenko est vraiment allé au contact avec le peuple, avec la conviction qu'il avait encore ce contact avec les ouvriers, qu'il s'agissait d'un groupe social qui le soutenait fortement. Il se trouve qu'il a été quand même hué assez copieusement, de même que les autres personnels politiques dans ses usines, mais aujourd'hui, il va avoir une stratégie davantage d'intimidation des leaders au sein des grandes entreprises. Mais les protestataires biélorusses diversifient aussi leur mode d'action. Oui. Ils ont bien compris qu'il y avait un nerf de la guerre là du côté de l'économie. Et par exemple, aujourd'hui, on a des appels qui sont adressés massivement à la population, appels à boycotter les structures étatiques, boycotter les institutions étatiques, et aussi ne pas remplir le budget de l'État. Par exemple, on recommande de payer au minimum les factures d'eau, d'électricité, de gaz pour maintenir pour ne pas être coupé, mais en même temps ne pas approvisionner les caisses de l'État, et donc les protestataires lancent également une guerre d'usure contre l'État biélorusse.
Et il y a un autre secteur économique qui soutient très massivement les contestataires, c'est celui des nouvelles technologies,
qui aussi
pèse très lourd dans l'économie biélorusse.
Oui, globalement, de toute façon, quand on fait l'analyse sociologique des manifestants, les opposants, c'est plus jeunes en général, grandes villes et capitales, et secteurs privés ou high-tech. En revanche, pour ce qui les ouvriers et les campagnes ou les petites villes, c'est évidemment là où on organise des manifestations pro-Loukachenko. Donc là, il y a évidemment deux Biélorussies qui coexistent sur le même territoire, mais il y a vraiment deux Biélorussies aujourd'hui.
Alors, on l'a compris, la situation, elle est très ambiguë et puis très incertaine encore, et forcément, ça inquiète des deux côtés de la Biélorussie.
Ah, ouais, voilà.
Au nord du côté de la Russie et plus au sud du côté de l'Union européenne. On va parler de la Russie. Quel rôle en réalité aujourd'hui tient la Russie en Biélorussie? Est-ce que c'est un vrai rôle de marionnettiste auprès de Loukachenko, ou est-ce que c'est un rôle, on va dire, plus là aussi plus ambigu, où il y a un rapport de d'amour-haine entre Loukachenko et Vladimir Poutine? Alors Anna-Colin Lebedev, je vais vous donner la parole.
Alors, mis à part les jeux politiques entre Poutine et Loukachenko, il faut bien comprendre qu'il y a une réelle interdépendance très forte des deux sociétés. Il y a une imbrication des économies, les débouchés des produits biélorusses sont pour une grande partie en Russie. Il y a des relations de voisinage très fortes. Il y a une sympathie de la population biélorusse vis-à-vis des Russes, de la population russe. Et bien évidemment, il y a cette dépendance politique, qui est une dépendance politico-économique, c'est-à-dire que Minsk a besoin de Moscou parce que son économie est directement ou indirectement subventionnée par Moscou, mais Moscou a aussi besoin de Minsk, qui reste finalement son seul allié en termes géopolitiques à ses frontières occidentales. Après la perte de l'Ukraine et la guerre dans le Donbass, la Russie n'a plus guère de zone tampon en fait qui la séparerait de la des pays qui se tourneraient vers l'Union européenne.
Et même géographiquement, la Biélorussie permet indirectement l'accès à l'enclave de Kaliningrad.
Oui, il y a cet élément-là, effectivement, même s'il n'a pas été mobilisé ces derniers temps. On a beaucoup parlé des autres formes d'interdépendance. Alors, Loukachenko a joué très finement, en fait, sur ce besoin avec des relations de « je t'aime non plus » avec Poutine pour obtenir des choses qui seraient à son bénéfice, pour obtenir des subventions, pour obtenir des bons prix, pour obtenir des préférences, mais sans céder, en fait, l'indépendance et la souveraineté du pays. Donc, Donc aujourd'hui, je dirais que si Loukachenko fait très massivement appel à la Russie, quelque part, il perd un peu son statut d'acteur politique autonome. Il ne cherche pas à le perdre pour l'instant. Donc l'appel à la Russie reste néanmoins assez modeste.
Est-ce que la Russie, de son côté, peut décider à un moment de dire Loukachenko, c'est fini, il a fait son temps, nous, on a besoin finalement de nouvelles têtes, mais de gens qu'on pourrait quand même toujours un minimum contrôler, et finalement décider de, si ce n'est d'un changement de régime, mais du moins d'un changement de figure du régime, Bruno Dreyfus.
Il est certain que je pense qu'à Moscou, on ne pleurerait pas beaucoup s'il y avait un autre chef d'État, je dirais plus malléable, que Loukachenko, qui avec tous ses défauts reste quand même peu malléable, ce qui est certain. Donc ça, c'est évidemment ce point-là. Ensuite, la question, c'est de savoir qu'est-ce que veut la Russie, parce que la Russie, bien sûr, c'est Poutine, mais derrière Poutine, il y a ou il n'y a pas des oligarques qui ont des visées très très précises. Hein. Je pense par exemple à Mazepin de Ouralkhem, qui a des visées non cachées sur Soligorsk. En Biélorussie. Là, justement, c'est là où Loukachenko est dans une position difficile, parce que sa seule carte qu'il joue, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'essayer de dire, ben, malgré tout, je défends l'État social, malgré les limites. Et puis, d'un autre côté, si on voit arriver les oligarques russes, ben, c'est du coup, Loukachenko, il joue plus aucun rôle. Donc là, il a besoin de Poutine, et en même temps, quelle est la stratégie à long terme de la Russie, quelles sont les forces qui vont prendre le dessus à Moscou?
Alors justement, les contestataires, ils sont très prudents à ce sujet, ils ne prennent pas réellement position, contrairement à ce qui avait pu se passer en Ukraine, où là c'était vraiment une contestation pro-européenne et anti-russe. Que ce soit au niveau du comité dirigé par Svetlana Tikhanovskaya ou au niveau des protestataires dans les rues, il n'y a pas cette volonté de dire halte à la Russie et bienvenue à l'Union européenne, Anna Kolin-Lebedev.
Alors attention, le comité de coordination de l'opposition n'est pas dirigé par Tikhanovskaya, il ne comporte que des personnes qui sont à l'intérieur de la Biélorussie. Elle, justement, est une parole qui est portée vers l'extérieur, et étant en Lituanie, elle va s'adresser à la communauté internationale. Les protestataires en interne insistent bien sur le caractère très interne, en fait, de ce conflit. Hein. L'absence de dimension géopolitique, Russie ou Europe, la volonté est avant tout une volonté de changement de régime politique. Je pense qu'il y a là, vous voyez, il y a une dimension sincère là-dedans, mais il y a aussi, bien évidemment, une dimension stratégique. C'est-à-dire qu'en donnant une dimension géopolitique au conflit armé, les manifestants perdraient, les protestataires perdraient pas mal de leur soutien, parce que la question n'est pas à l'ordre du jour en Biélorussie. Et puis aussi, ça augmenterait le potentiel de conflictualité, de réaction violente des Russes, de réaction violente de Loukachenko, si cette dimension géopolitique était mise sur la table. Donc, ce n'est pas... Je pense que ce n'est pas rendre service aux Biélorusses que de géopolitiser à l'extrême leurs demandes.
Alors, on arrive bientôt à la fin de l'émission, déjà, malheureusement, parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais tous les deux, est-ce que vous voyez une sortie à cette espèce de statu quo qui est en train de s'installer en Biélorussie? Quelle serait, en deux phrases, hein, vraiment la bonne stratégie, selon vous, pour les protestataires ou pour Loukachenko, pour arriver à leur fin?
Alors, le problème, c'est que, comme on l'a dit, il y a les Biélorussiens, mais il y a évidemment aussi les étrangers, et surtout Poutine, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Il est clair que l'idéal, ce serait une solution, négociée. Alors, je ne sais pas si la proposition de changement de constitution pourrait être reprise sous une autre forme, acceptable par, disons, une large partie de la société.
Merci Bruno Bzowski, Anna Kolin-Lebedev, vous aurez le mot de la fin.
La Biélorussie a déjà changé et l'époque Loukachenko est déjà terminée. On ne sait pas si ça prend 2 heures, 2 jours ou 2 ans pour que ce régime disparaisse, mais il disparaîtra.
Merci beaucoup Anna Kolin-Lebedev, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, et Bruno Bzowski de l'INALCO. Merci d'avoir été nos invités et très bonne soirée à l'écoute de RFI.